Pour d'autres informations, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Bienvenue sur Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis sur VOA Afrique. Merci de nous avoir choisis. Ce soir, nous allons parler de l'Euro 2021 qui aborde sa troisième journée des matchs de poule, tout comme la Copa América au Brésil. Et puis, l'Angola règne sur le handball en Afrique avec un nouveau sac au Cameroun. Et pour décortiquer et analyser tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Je salue Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba Yamba et Takishasa à RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
De Dakar au Sénégal, nous avons Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis Lawaldine Kosuro, fidèle au poste. Bonsoir.
Élisée, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec toi chaque lundi soir.
Bonsoir et bienvenue à tous. Le championnat d'Europe des nations de football, l'Euro 2021, est à sa dernière journée de la phase de groupe avec les troisièmes matchs. Amédine, et déjà l'Italie en patron, tout comme les Pays-Bas et la Belgique.
Tout à fait, Élisée. D'ailleurs, ces trois pays ont composé leur ticket pour les huitièmes de finale après seulement deux matchs. Impressionnante lors du match d'ouverture face à la Turquie que les Italiens ont remporté sur le score de 3-0. L'Italie a poursuivi sur sa lancée en dominant largement son voisin suisse sur le score de 3-0 grâce à un doublé d'Immobili et d'un but de Locatelli. Avec deux victoires en autant de sorties, l'Italie décroche sa qualification facilement pour les huitièmes de finale. D'ailleurs, l'Italie a été le premier pays à composer son billet pour les huitièmes de finale. Comme l'Italie, la Belgique aussi assure les Diables Rouges qui ont laminé la Russie sur le score de 3-0 ont confirmé en s'imposant face aux Danois 2-1 suite à un match constant mené sur le score 2-0 lors de la première période. Les Belges ont renversé la tendance grâce à l'entrée de De Bruyne qui a délivré une passe décisive sur le but de Hazard, le jeune frère d'Eden Hazard, et il a lui-même marqué le deuxième but. Les Pays-Bas aussi qui ont battu l'Ukraine 3-2 et l'Autriche 2-0 font aussi partie de ces équipes qui ont séduit les amateurs du sport roi durant ce premier tour. Ces trois équipes se sont qualifiées sans problème pour les huitièmes de finale. Élisée.
Valdo, comme l'Angleterre, la France aussi a raté l'occasion de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.
Élisée, c'est ça la compétition. Rien n'est gagné d'avance et il faut batailler dur pour s'assurer sa place au prochain tour de cette Coupe d'Europe des Nations, vainqueur de l'Allemagne en première journée de la phase des groupes. La France a bataillé dur pour éviter une défaite face à la Hongrie, puisqu'elle est obligée de courir derrière les scores. Un exercice auquel N'Golo Kanté et les siens ont quand même réussi en évitant la défaite. Et c'est Antoine Griezmann qui va permettre à la France de revenir à la hauteur des Hongrois en égalisant à un but et évitant ainsi une défaite à la France qui, il faut le rappeler, est annoncée comme le super favori de cette compétition. Avec désormais 4 points, les Bleus restent tout de même en tête de leur groupe en attendant le choc de la troisième et dernière journée de cette phase des groupes face au Portugal de Cristiano Ronaldo.
Lawal, l'Allemagne s'est reprise en dominant le Portugal. Par contre, l'Espagne se pavane encore. Et cette fois, face à la Pologne.
Oui, Élisée, l'Allemagne devait se reprendre, se réconforter. L'Allemagne, battue par la France, a un but malheureux contre son camp.
Avait besoin d'une victoire pour se relancer.
Elle s'est relancée, c'est ce qui est bien. Mais l'Espagne traîne encore. On espère que les derniers matchs vont permettre à toutes les grandes nations européennes de se relancer.
Certains sont déjà qualifiés, l'Italie,
la Belgique et les Pays-Bas sont déjà qualifiés. On espère que les autres vont faire l'essentiel pour qu'on retrouve un bon huitième de finale, un plat de huitième de finale assez intéressant.
Voilà, d'une Coupe des Nations à une autre, la Copa América qui bat son plein au Brésil. Amine, les équipes attendues répondent présentes. En revanche, l'Uruguay débat mal.
Et à cette formule de la Copa América qui permettra peut-être à l'Uruguay de se rattraper en dépit de cette première défaite face à l'Argentine dans un derby assez enflammé. C'est le fait qu'il y ait 5 équipes par groupe et que les 4 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Véritablement, la compétition ne va démarrer qu'à partir de ce stade. Et visiblement, l'Uruguay va composter sa place. Il n'y a pas de doute dans ce sens-là. Pour l'instant, il y a le Brésil qui a démarré très fort la compétition avec 2 matchs et 2 victoires. L'Argentine qui commence à montrer des signes de progrès et qui a validé ses progrès à travers un nul assez méritoire face au Chili et 7 victoires face à la Céleste. Et on verra dans quelle mesure la Colombie, le Paraguay, le Pérou vont pouvoir également se hisser au niveau des quarts de finale pour nous proposer des rencontres à élimination directe plus poignantes et plus intéressantes.
Football aussi en Afrique, avec d'abord les demi-finales allées des interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Avantage à Al Ahly du Caire et au KZF Chiefs d'Afrique du Sud, tous vainqueurs 1-0 sur le terrain de l'Espérance de Tunis et du Wydad de Casablanca en Coupe de la CAF. La jeunesse sportive de Kabylie fait un grand pas vers la finale en s'imposant aussi à l'extérieur à Yaoundé au Cameroun devant le Coton Sport du Garoua, score 2-1. L'autre demi-finale n'a connu ni vainqueur ni vaincu entre les Égyptiens de Pyramide, finalistes de la dernière édition, et le Raja de Casablanca, grand favori et invaincu dans cette compétition. Alors, Amine, les deux clubs marocains vont devoir cravacher dur au retour.
Tout à fait, Lise, les deux clubs marocains n'ont pas répondu aux attentes lors de leur rencontre de demi-finale aller et des compétitions continentales. Le Wydad a échoué dans les grandes largeurs face à l'équipe de Kaizer Chiefs à Casablanca, une défaite inattendue 1-0. Et dire qu'il y a quelques mois, le Wydad avait pulvérisé cette même formation à Ouagadougou dans un autre contexte sur le score de 4-0. Manquant d'imagination, très prévisible dans la construction de son jeu offensif, le Wydad a peiné, ne s'est créé que très peu d'occasions et a fini par payer très cash la seule erreur défensive de la rencontre. Quant au Raja, le 0-0 contre l'équipe de Pyramide Soccer suppose que tout se jouera à Casablanca, évidemment. Le Raja qui s'est procuré les occasions les plus nettes, mais qui n'a pu concrétiser, notamment par Soufiane Rahimi. Il va falloir maintenant se méfier, car tout autre résultat qu'une victoire supposerait un gros échec pour l'autre club casablancais. En tout cas, les clubs marocains sont appelés la semaine prochaine à réagir et très vite, que ce soit à Johannesburg pour le Wydad ou à Casablanca au complexe Mohamed V pour le Raja.
Merci Amine. Et puis on connaît finalement le 54e pays qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 qui aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Il s'agit de la Sierra Leone qui a éliminé le Bénin. Les écureuils tous dociles, trop tendres et franchement peu inspirés qui perdent exactement sur le score qui leur est interdit alors qu'ils pouvaient se contenter d'un nul pour passer. 1-0 donc pour les Lone Stars qui, après tant de turpitude autour de ce match qui aurait dû se jouer fin mars, chip le dernier ticket pour la CAN camerounaise en janvier prochain. Ce sera le premier depuis 1996. Il renvoie du coup les Béninois à leurs études. Michel Dussuy, sélectionneur du Bénin.
On a essayé de pousser au fur et à mesure du match, de prendre de plus en plus de risques, évidemment, quoi. Après, on n'est pas très bien rentré dans cette rencontre. On a eu du mal à s'adapter au terrain. On a eu du mal à... parce que ça sautait quand même pas mal. Il y avait pas mal de rebonds. Donc on a eu un peu de mal à s'exprimer techniquement. On a aussi manqué de dynamisme sur le plan offensif, mais voilà, on s'est créé des occasions. On va pas s'en créer 50 hein, contre la Sierra Leone, mais après il faut les mettre au fond, quoi. Et la réussite nous a fui ce soir comme elle nous a fui une bonne partie des éliminatoires, parce qu'on a toujours en tête ce but encaissé à 10 secondes de la fin contre le Nigeria, quoi. Donc c'est dur à encaisser.
Lawal, désillusion totale pour le football béninois.
Michel Dussuyé, le sélectionneur béninois, a fait mauvaise lecture du match. Et il est coutumier du fait, contre le Sénégal, en quart de finale de la CAN, il a fait une mauvaise lecture. Contre la Zambie, à domicile, un match amical. Et puis, le match de ce jour-là. Le 11 entrant, c'était piteux, malheureusement. Et il a ramené, c'est vrai, des revenants et tout le reste, mais il devrait faire les changements en temps opportun, il n'a pas pu les faire.
Il n'a pas fait contre le Nigeria.
Et puis, le pire du pire, c'est qu'il a sorti le buteur face à la Zambie, le 14, et il revient et il lui sortit encore le même 14. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le match, il a perdu le match avant le match. Les gens n'ont pas véritablement une culture du foot parce qu'on constate malheureusement au Bénin qu'on se consacre un peu plus, un peu trop, je vais dire, à l'équipe senior alors qu'il y a toute une foultitude d'autres équipes qu'il faut gérer. Et malheureusement...
Un poste de directeur technique.
Non, il y a un DTN. Mais qui est mal loti, très mal loti, qui n'est même pas considéré par le ministère parce que on peut pas comprendre international, on peut pas comprendre que le DTN puisse être encore en train de traîner avec sa moto dans les villes de Cotonou, Porto Novo et autres, alors que l'entraîneur et puis
le conseiller spécial
et tous ceux là sont bien lotis. C'est une information qu'il faut qu'on apprenne au public. Parce que là, on ne peut pas le concevoir. Il est DTN, il est le responsable technique de tout ce qui doit se faire, mais on le traite mal parce qu'il est national. Non, c'est déplorable. Et le ministre béninois des sports doit pouvoir regarder de ce côté-là et éviter qu'on traite son compatriote de cette façon.
Voilà qui est clair. Le Bénin qui ne sera pas concerné par le tirage au sort de cette CAN 2022 annoncé pour la première quinzaine du mois d'août après le passage du secrétaire général de la CAF, Ferron Moussengo, au Cameroun. Le pays qui est à 7 mois du début de la compétition a reçu une délégation mixte CAF FIFA pour une visite de travail de 3 jours où il était question de l'organisation de la grande messe du foot africain. Valdo, un dernier passage pourra-t-on dire et qui rassure?
Quoiqu'ayant réussi à organiser le championnat d'Afrique des Nations à Élysée, cela n'est garanti nullement que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ait été un acquis. Il faut le noter que cette CAN va se jouer dans d'autres stades qui n'ont pas été utilisés lors du CHAN et qui ont fait peau neuve, voilà, qui justifie entre autres cette énième visite de la CAF sur le terrain pour un dernier réglage. Ce qui est sûr, réaliser cette visite est celle qui doit, en principe, mettre à l'aise la CAF par-dessus toutes les inquiétudes qu'elle peut avoir au sujet de la capacité d'accueil de cette compétition par les Cameroun. Seul bémol, outre la COVID-19 à gérer, c'est les infrastructures et je pense que ces passages de Monsengo, secrétaire général de la CAF, est dans l'obligation de rassurer à la fois les Cameroun et la CAF afin d'éteindre tout malentendu sur quoi que ce soit dans l'organisation de cette compétition.
À Médine, Ferron Moussengo rassure, la CAN aura bien lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.
Oui, Élisée, le nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football, Ferron, qui a effectué une visite de travail de 3 jours au Cameroun, histoire d'inspecter un peu les travaux avant la Coupe d'Afrique des Nations, a tenu à rassurer les amateurs du ballon rond pour le bras droit de Patrick Motsepe. Il ne fait aucun doute, la Coupe d'Afrique des Nations ou grande messe du football continental aura bel et bien lieu au pays des Lions. Des Lions indomptables du 9 janvier au 6 février 2022. Mais je pense qu'il faut prendre cette déclaration du nouveau secrétaire général de la CAF avec des pincettes, hein, car je pense qu'il y a anguille sur roche, surtout en ce qui concerne le report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se tenir le 25 juin. On a parlé du report à cause du Covid. Je pense qu'il y a anguille sur roche, car cette cérémonie de tirage au sort ne devait pas mobiliser beaucoup de monde. Maintenant, on va attendre, car il ne reste plus que 6 mois pour le début de cette grande compétition internationale. Comme disent les Anglais, ils disaient « wait and see ».
Amine, l'instance fêtière, conforme à sa promesse de fournir un soutien technique au Cameroun dans la préparation de cette compétition, ouvre un bureau à Yaoundé. Tout se planifie pour la réussite du tournoi.
Cette fois-ci, il n'y a pas lieu de douter, le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans son édition de 2022. Elle était programmée pour une année avant. Évidemment, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de soubresauts, beaucoup de problèmes liés au retard de livraison des installations, quelques soucis au niveau logistique, au niveau des infrastructures, mais il n'y a pas de doute sur la volonté de la CAF actuelle de faire de l'accompagnement et de contribuer à ce que le Cameroun puisse réussir cette organisation. C'est en tout cas le message qui a été envoyé par le secrétaire général Véron Mossengo et cette visite de travail qui a permis de créer un bureau de liaison qui va apporter son expertise et son expérience dans le domaine de l'organisation et de la logistique. J'espère tout simplement que ces propos et ces actions ne vont pas être vaines et qu'elles vont permettre au Cameroun de réussir cette organisation.
Laval, le Cameroun est presque prêt, puisque selon la CAF, il y a quelques réglages à faire, même si le travail avance très bien, reconnaît Mossengo.
Élisée, le Cameroun a montré qu'il est en mesure d'organiser des championnats de cette envergure. C'est vrai qu'on a dû lui arracher la CAN 2019 et tout le reste. Mais aujourd'hui, si la CAF dit que le Cameroun est prêt, c'est que c'est prêt, tout est en marche. Et le secrétaire général en fait foi à sa parole. On souhaite que la CAN se déroule au Cameroun. Même
le
si
qui a organisé le CHAN, la Coupe.
Le CHAN, la CAN de handball et tout le reste. Donc il faut véritablement que les Camerounais mettent les bouchées doubles pour faire plaisir aux Africains.
On prend la direction de la RDC. Constant Omari quitte la tête de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, où il était le président tout-puissant depuis 2003. Alors, Valdo, l'ancien vice-président de la CAF, qui est dans le viseur de la commission d'éthique de la FIFA, a jugé qu'il était temps de passer la main.
Cette démission devait servir de monnaie d'échange, puisque sans quoi elle n'avait pas lieu d'être quand on sait qu'il lui restait quelques mois pour finir entièrement son mandat et organiser les élections qui devaient porter à la tête de cette Fédération Congolaise de Football Association à un nouveau président. Mais bon, l'homme a été contraint à la démission afin de répondre positivement à la pression au niveau de la FIFA qui ne supportait plus le voir à la tête de la FECOFA après y avoir passé 18 années comme président. Constant Omari, loin de la FECOFA, l'homme a d'ailleurs fait ses adieux au personnel de cette instance le week-end dernier après avoir annoncé officiellement sa démission dans la semaine. Maintenant, on attend voir ce qui va se passer après cette démission. Puisque constat fait, au niveau de la CAF, la même formule, c'est-à-dire poussée à la démission, est actuellement d'application, qui serait en train de faire la chasse aux membres du comité sortant.
Amine, c'était prévisible vu qu'il n'a plus de soutien pour continuer, surtout au niveau de la CAF.
C'est une page qui se tourne pour l'histoire du football congolais, puisque Constant Omari était en place depuis près de 18 ans. Il a perdu de son influence et de sa superbe au cours du dernier exercice et de la dernière année en particulier, puisqu'il n'est plus membre du conseil de la FIFA. Il avait été empêché de se représenter. Il n'est plus au comité exécutif de la CAF. Et cette perte d'influence a fait qu'il y a eu cette érosion de pouvoir au niveau de son pays. Donc c'était prévisible qu'il ne puisse pas continuer. Cette démission va certainement changer la donne dans le football de la RDC, qu'il avait remis au premier plan, notamment au niveau de l'équipe nationale qui avait gagné les éditions du CHAN, que ce soit la première ou celle de 2016. Et on verra dans quelle mesure il y aura du sang neuf, il y aura du renouveau à travers les candidatures qui vont se présenter. Il y a un changement de statut qui va s'opérer prochainement concernant la Fédération Congolaise de Football et on verra dans quelle mesure il y aura des candidatures qui vont s'annoncer, surtout des programmes qui seront déclinés dans les prochains jours.
Laval, l'homme moderne en 18 ans a un bilan jugé insuffisant pour la presse congolaise malgré cette touchane en 2009 et 2016.
Oui, Constant Omari, homme moderne, il s'appelait. Il n'a pas pu moderniser le foot congolais, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu deux chans et tout le reste.
Mais c'est insuffisant pour quelqu'un qui a fait 18 ans à la tête d'une fédération.
Élisée, le plus insuffisant, c'est que l'ARD Congo n'a rien gagné pendant 18 ans. Aucune compétition internationale. C'est vrai, Le TP Mazembe, dont le mérite revient à Moïse Katumbi voilà. Pour tout ce qu'il a investi dans cette équipe, a remporté quelques Champions League, mais en dehors de ça, plus rien. Donc, il n'est moderne que de nom, malheureusement. Il est temps qu'il parte pour laisser d'autres continuer le travail de modernisation qu'il a entrepris sans pouvoir véritablement l'achever.
On revient vers vous, Valdo. Juste après le départ de son président, la FECOFA a décidé de retirer 9 points à l'Est des clubs coupables d'avoir lié un joueur non éligible. Coup dur pour les Dauphins Noirs qui, à une journée de la fin du championnat, ne sont plus leaders.
Véritable coup dur pour l'ASV Club qui pourtant s'était déjà rassuré du titre avant son dernier match de la saison, vu l'écart considérable qu'il s'était créé avec ses deux concurrents, à savoir un Mazembe.